la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et vous, à quel prix évaluez-vous votre morale, votre intégrité physique? Pour quelle somme d'argent seriez-vous prêt à risquer votre vie? Pour quel montant accepteriez-vous de prendre des produits qui pourraient vous conduire à un arrêt cardiaque ou on ne sait quelles conséquences encore? Vous vous dites certainement « jamais je ferai une chose pareille ». Mais si on vous déposait là, maintenant, sous votre nez, une valise avec 250 000 euros, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est les questions auxquelles ont répondu 42 athlètes en participant ce dimanche aux Enhanced Games à Las Vegas. Alors les Enhanced Games sont une sorte de jeux olympiques où l'utilisation de produits dopants est plus qu'autorisée, elle y est encouragée et encadrée. Le but explicite ? Battre des records en pagaille et prouver que l'évolution humaine passera par la stimulation scientifique. Le but implicite ? Eh ben, que l'entreprise NS fasse une pub XXL pour vendre ses produits d'amélioration de performance. Et les participants ne sont pas n'importe qui, puisque l'on retrouve pêle-mêle des champions, des médaillés olympiques, anciens et actuels, certains l'ayant été au JO de Paris. La récompense, 1 million de dollars pour un record battu et 250 000 dollars pour une victoire. Des gains supérieurs à ce qu'ont pu empocher la plupart des athlètes sur pratiquement l'ensemble de leur carrière. Mais alors, si la compétition a eu lieu dimanche, quels sont les résultats? Eh bien, c'est un peu la douche froide pour les riches organisateurs car un seul tout petit record a été battu en 50 mètres nage libre pour 7 centièmes seulement et il est bien évidemment non homologué. Et pour l'épreuve reine, le sprint, l'ironie est encore plus savoureuse puisque les gagnants chez les femmes et chez les hommes, eh bien, sont tous les deux non dopés. Ils sont venus, ont couru et ont empoché une somme d'argent démentielle. Alors, la morale veut peut-être nous rappeler que le dopage n'améliore pas toujours nos performances, mais que ce dimanche, elle a surtout amélioré le sommeil de bon nombre de banquiers. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, nous allons discuter des free parties du projet de loi Riposte qui vise à les restreindre, voire à les interdire. Pour en parler, avec nous deux invités, Rookie du collectif Tech de Rêve et Rox du collectif Red Flag Riposte. L'interview sera menée par PA. Puis Benoît viendra nous raconter une histoire qu'il a vécue dans un train. Ensuite, nous évoquerons le festival Magic Barbès qui débutera demain. Et pour en parler, Anna posera ses questions à Mousse Amokran, artiste associé au FGO Barbara. Et enfin, c'est Tiske qui interviendra pour nous parler de la fête de la cité. Vous savez tout, restez bien avec nous jusqu'au bout. Tout de suite, c'est l'interview de PA.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Pourrons-nous encore danser librement ? Pour parler des free parties et de la loi Riposte qui doit être votée aujourd'hui au Sénat, nous recevons Rookie. Bonjour Rookie.
Salut.
Et Rox. Bonjour Rox.
Salut.
Dans une danse menée par PA. Bonjour PA.
Salut Amaury. Salut Rox, salut Rocky. Alors pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel on fait cette interview, au début du mois de mai et pendant une semaine, le Technival de Bourges a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes et a largement concentré l'attention médiatique et politique sur les free parties, allant souvent de pair avec une diabolisation voire une criminalisation du mouvement et des teufeureuses en invoquant plusieurs motifs comme le trouble à l'ordre public ou l'atteinte à la vie privée. Et au-delà du cas particulier du Technival de Bourges qui a détonné par sa taille et par son nombre de participants et participantes, cette criminalisation, elle, ça va plus largement sur l'ensemble des centaines de free parties organisées chaque année en France, avec au programme des violences policières contre les teufeureuses, des saisies de matériel, des amendes contre les participantes et les organisatrices. Et du côté législatif, deux propositions de loi sont actuellement sur la table. Il y a la loi dite 1133 et la loi dite Riposte, pour durcir encore la répression contre les free parties et les teufeureuses. On en reparlera un peu plus tard dans l'interview. Et pour dépasser les nombreuses idées fausses qui circulent un peu partout sur les free parties, il nous semblait important de donner la parole à des personnes directement concernées pour revenir à la fois sur les valeurs et les revendications du mouvement free party, mais aussi sur la répression croissante dont ce mouvement fait l'objet. Et donc pour parler de tout ça, on reçoit ce soir Rookie de l'asso Tech de Rêve. Salut Rookie.
Salut.
Et Rox de l'asso Red Flag Riposte. Salut Rox.
Salut.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement vous et aussi les assos dont vous êtes chacun et chacune membre?
Ok, bah du coup moi c'est Rookie, je fais partie de, surtout ça fait déjà maintenant 3-4 ans que je vais en teuf et je fais partie de Tech de Rêve. Du coup, Tech de Rêve, on est un média politique. On est surtout communautaire, on n'a pas de forme fixe à proprement parler. On est en constante évolution. Du coup, on a un jeune collectif qui est présent en teuf et sur les réseaux. Notre taf, c'est de faire de l'information, de la documentation un peu sur l'histoire du mouvement, sur tout ce qui se passe politiquement parlant aujourd'hui dans notre mouvement et dans notre milieu. Et surtout, genre, notre point d'ancrage, c'est vraiment de rappeler à tous et à toutes l'importance de l'aspect politique du milieu dans lequel auquel on participe. Et du coup, on est surtout présent sur site en teuf. On a un stand dans lequel on essaie de créer des espaces d'échange, de réflexion et d'éducation avec les dossiers sur lesquels on travaille, nous, de notre côté. Comme ça, après, on en parle avec les gens sur place. Et aussi, on est une sorte de chill-out avec des jeux.
Pour aller se poser en teuf, quoi.
Ouais, c'est
pour
ça. Là où les gens vont se reposer, ils vont faire une petite sieste et tout.
Ok, trop bien.
Ils vont jouer et tout. Et surtout, tout ça, c'est vraiment à chaque fois basé sur la politique et tout.
Ok, trop bien. Et toi, Rox ?
Moi, du coup, je fais partie du collectif Red Flag. On est une association qui lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. Du coup, VSSG en fait partie, mais dans tout autre espace. Et on fait également la création de supports justement pour faire de la prévention sur ça. On est une vingtaine de membres. On existe depuis 2021 et on est né du constat que il n'y avait pas suffisamment de prévention en free party sur les VSSG. Et du coup, on a un peu les premiers à avoir fait ça. Donc, on a vraiment construit nous-mêmes tous nos protocoles, toutes les façons dont on fonctionne, qu'on peaufine au fur et à mesure des années. Enfin, de toute façon, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà.
Tout à fait. On reviendra sur les enjeux de réductionnalisme, sur les violences sexuelles et de genre, et plus largement sur d'autres enjeux aussi. Alors, une première question assez naïve pour les auditoristes qui n'auraient jamais fait l'expérience d'une teuf ou d'une free party. C'est quoi une free party ? Et il y a une confusion qui est souvent faite aussi avec les rave parties. Est-ce que vous pourriez aussi expliquer la différence entre les deux ?
Alors la différence, elle est hyper importante.
Ouais.
Déjà, je vais d'abord parler de la différence avant de dire c'est quoi une free party exactement. La différence, c'est que la rave party, c'est plutôt institutionnalisé. C'est très très souvent payant. Ça peut être gratuit, mais c'est très très souvent payant. Et surtout, en fait, c'est les gens qui vont demander une autorisation à l'État, au préfet... aux collectivités s'ils ont le droit de faire leur soirée ou pas. Là où les free parties, c'est vraiment partir du principe que la fête, ça doit être quelque chose de libre. Et du coup, on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour danser, en fait.
Tu veux que je mette Rox ?
C'est toi qui commence.
Okay. Mais du coup, ouais, du coup...
Sur ce que c'est que peut-être une teuf de manière générale, est-ce que...
Ouais.
Poser un peu le cadre du débat.
Alors, du coup, la free party, c'est un peu une zone d'autonomie temporaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que temporairement, dans un lieu donné, bah, en fait, on va agir de façon autonome et on va être un peu coupé du monde. Et tout ça autour de la musique, bien entendu, et de la danse et tout. Du coup, c'est un espace de fête libre qui, vu que c'est une zone d'autonomie temporaire, ça s'extirpe un peu de notre société capitaliste. On a vraiment cette idée d'être en dehors des règles liberticides de l'État, en dehors des lois du marché. C'est un lieu dans lequel l'argent, c'est pas le moteur de nos interactions. Et c'est aussi sans flic, sans sécurité privée, que personnellement je mets dans cette définition de flic. Et aussi un aspect hyper important, c'est que c'est vachement horizontal. Il n'y a pas de verticalité comme dans une entreprise ou quoi. C'est vraiment tout le monde est au même stade.
Et à la fois dans l'organisation et dans les participantes.
C'est ça.
Et même sur place, en soi, les gens, même si ils n'avaient pas prévu de faire des choses en amont, ils peuvent très bien se saisir sur place et filer des coups de main là où il y a besoin de filer des coups de main.
On pourrait aussi rajouter que, historiquement, c'est un peu un lieu qui a été créé par et pour les personnes queer, les sans-papiers, les sans-famille, les punks, les drogués, les travelers, les mal logés. Et en fait, c'est un peu pour tous ceux qu'on regarde un peu mal dans la rue, ceux qui sont un peu prédestinés à être sans avenir, tous les marginaux, quoi. Mm-hmm. Et personnellement, je voulais donner une phrase, un élément de langage que ma collègue a et que j'aime bien. Elle m'a dit que du coup, nous, on arrive, on s'installe, on nettoie et on part. On s'entraide, on communique et on kiffe. Et quand il y a des problèmes, on se pose des questions et on trouve des solutions. C'est un espace de création et d'expérimentation qui a même inspiré les institutions. en prenant l'exemple de la RDR. Et c'est pour cela qu'en fait, on continue en auto-organisation.
Mmh. Et peut-être pour revenir sur cet aspect d'auto-organisation, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Rox, sur le côté réduction des risques, notamment sur les VSSG, donc les violences sexistes et sexuelles et de genre. Rookie, tu l'as évoqué aussi sur l'aspect sécurité, donc c'est vous qui assurez votre propre sécurité, non seulement pour les VSSG, mais aussi pour tout ce qui est les drogues, tout ce qui est la sécurité au niveau du son, au niveau de tout en fait. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cet aspect auto-organisationnel, notamment sur la réduction des risques et puis peut-être de façon plus générale aussi?
Après, c'est vraiment chaque individu qui du coup s'occupe de soi, mais aussi des gens avec qui cette personne vient. Enfin, il y a vraiment un aspect de tu prends soin de tes potes et tu prends soin aussi de n'importe quelle personne en fait qui occupe l'espace avec toi. Et au niveau de la réduction des risques, bah, nous, c'est vrai qu'on est là sur des questions un peu plus spécifiques, ou que ça soit du coup, sur les VSSG ou alors sur les questions de produits. Enfin, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage. Enfin, y a vraiment des formations qui sont proposées à tout le monde, que ça soit sur les VSSG ou sur les prods de manière générale dans le milieu de la free party, pour justement ce partage de savoir, il est hyper important et ça vient participer justement à l'horizontalité. Du coup voilà, et en soi nous des fois sur des gros stuff, ben, on peut bosser avec des gens qui sont des personnes du public et qui viennent nous filer des petits coups de main, ou alors qu'on a pu un peu former en amont et qui viennent juste pour une ou deux teufs nous aider et qui font pas forcément partie de l'asso.
Mmh. Et tu parlais tout à l'heure, vous avez des protocoles spécifiques pour Red Flag Riposte et pour vous faites des formations aussi, vous formez des gens du coup?
Oui, alors okay. On peut former des sound systems, mm-hmm. On peut former des collectifs en tout genre. Et on a déjà aussi formé pas mal de lieux en région parisienne. Okay. Ou autres aussi, ça nous arrivait en province également.
Ok. Et justement, cet aspect auto-organisationnel, c'est un peu un des partis pris politiques majeurs de la Free Party. C'est de dire qu'on n'a pas besoin de sécurité extérieure, de flics, comme tu disais tout à l'heure, Rookie. Est-ce que tu pourrais parler du coup de cet aspect-là peut-être? Enfin, il y a un cliché qui revient perpétuellement dans les bouches des politiques, c'est le côté, la drogue en fait, qui est supposément centrale dans les free-parties, et c'est les drogués qui vont dans des champs et qui font n'importe quoi. Dans les free-parties, j'ai l'impression qu'il y a aussi un parti pris de les gens vont consommer et on va encadrer cette consommation. Est-ce que peut-être tu peux parler un peu de cet aspect-là
Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est vraiment vachement lié à la RDR cette question, et que du coup Rock sera beaucoup plus à même que moi de répondre.
Très bien.
Bah, du coup, c'est un argument qui est énormément utilisé, mais en fait, c'est un argument. La teuf, les consommations sont absolument partout, sont pas uniquement en teuf, que ça soit dans des lieux légaux, que ça soit au travail, que ça soit à l'Assemblée nationale, en fait, la drogue est absolument partout. Après, le problème sociétal, c'est qui la consomme. Forcément, si on est cadre supérieur, ça va être en mode waouh, trop stylé. Cette personne consomme pour booster ses compétences et pallier au burn-out. Forcément, si t'es une personne pauvre et sans emploi, tu vas juste être catégorisé comme tox et juste perdu dans ta vie. Et en fait, c'est vachement cette image-là que du coup ils vont venir utiliser pour justement comme argument pour casser un peu l'image de la teuf. Et en réalité, en teuf, il n'y a pas que des drogués, il y a plein de gens qui ne se droguent absolument pas. Il y en a tout autant qui consomment que ça peut être dans des lieux légaux, pour avoir fait aussi de la réduction des risques dans des lieux légaux. Donc c'est un argument qui en soi n'est pas valable pour casser du sucre sur ça. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est que, on sait très bien que les gens, ils consomment. On va pas interdire les gens de consommer parce que ce n'est pas un outil qui sert à, justement, à lutter contre les addictions. On va plutôt accompagner les gens pour que s'ils ont envie de consommer, ils le fassent bien, en réduisant les risques d'hépatite, en réduisant les risques de n'importe quelle maladie qui pourrait être transmise par les modes de consommation. Et c'est aussi comme ça qu'on fait, parce que du coup il y a l'argument aussi des VSSG qui est énormément utilisé, mais je sais pas si on en parle maintenant ou si on en...
Tu peux en parler en deux mots, ouais, rapidement.
Ce sera pas en deux mots si j'en parle.
Ok. Peut-être qu'on va garder ça.
Ouais, mais du coup on va profiter pour la deuxième partie, et parce qu'on parle musique et danse, et on a qu'à faire une pause musicale avant de revenir donc pour cette deuxième partie de cet échange qui est passionnant, en écoutant le titre Soirée Disco de Boris.
Ce soir, Boris est chez lui, il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, 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 show Boris. Chez Boris, ce soir, c'est soirée disco. Chez Boris ce soir, entrée 15 balles, gratuit pour les filles. Chez Boris ce soir, poule à facettes, pantalon pas de def, spotline c'est sur un disco.
C'était Boris avec le son Soirée Disco et vous écoutez Radio Campus Paris 93.9.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous reprenons l'échange captivant sur les free parties et le projet de loi Riposte avec Rookie et Rox, membres des collectifs Tech de Rêve et Red Flag Riposte. PA, c'est à toi.
Alors on est de retour, on avait parlé en première partie de la free party, ce que c'est, ses valeurs, ses revendications, la réduction des risques, etc. Et à présent on va parler de la répression policière et de l'évolution du cadre législatif pour encadrer soi-disant et interdire les free parties. Une répression qui s'abat sur le mouvement et sur les teufs de façon générale, qui est sous-tendue par du coup un arsenal législatif qui se durcit de plus en plus en France, en s'inspirant notamment du modèle italien mis en place par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, où depuis 2022 les organisateurs de free parties risquent désormais jusqu'à 6 ans de prison et 10 000 euros d'amende. Alors une première question pour tous les deux, pourquoi la free party dérange autant l'État et les autorités, et qu'est-ce qui est principalement reproché au mouvement Free Party et au TUF de façon générale?
Ce qui dérange, c'est que c'est un espace qui est soumis à aucun pouvoir. Enfin, l'État n'a pas la main dessus, il ne peut pas créer du profit sur la Free Party. Et il y a aussi ce truc de, ça a lieu tous les week-ends, c'est de 50 à des milliers de personnes qui se réunissent dans les champs, des gens qui ne se connaissent pas forcément, et pourtant, ils arrivent à construire un truc super ensemble. Et en fait, tout ce truc, de toute façon, d'autonomie, on sait très bien que ça fait extrêmement peur à l'État, et en fait, c'est ça qui leur fait peur. Et après, comme argument, ils vont utiliser l'argument sur la drogue qu'on a évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi toute la récupération de la lutte des VSSG pour justement nuire à la teuf. Ils nous sortent des choses assez absurdes. Il y a un député du parti de Marion Maréchal Le Pen qui a notamment dit que c'était une entreprise de délinquants qui se cachait derrière des rassemblements festifs pour justement pour créer des délits que aussi on s'enrichissait tout en expansant la jeunesse française aux drogues dures, à la soumission chimique et aux violences sexistes et sexuelles, ce qui est bien sûr absolument faux. Et ils nous sortent aussi des chiffres en mode une femme sur sept se serait fait déjà abuser en teuf, pareil, enfin c'est des chiffres qu'on a cherchés. Enfin, nous, en tant qu'association de VSSG, on n'a rien trouvé. Mais par contre, nous, on a fait notre propre enquête, histoire d'avoir des chiffres un peu plus parlants, en interrogeant les gens qui vont en teuf, que ça soit de près ou de loin. Du coup, il y a 67,3% qui déclarent déjà avoir été victimes de VSSG en fait légal et 65,2% dans les espaces privés. Mais par contre, il n'y a que 21,6% personnes qui ont déjà été victimes de VSSG en free party. Donc, ça, c'est vraiment les chiffres des gens de la free party. Et c'est vrai que quand on les compare, en fait, on est complètement à l'opposé des arguments qui peuvent nous sortir pour faire taire notre mouvement.
Et en s'agissant de la répression policière en tant que telle, donc sur le terrain, il y a un cas qui a particulièrement marqué les esprits ces dernières années, c'est celui de la teuf de Redon en Bretagne en 2021, où un teufeur avait eu la main arrachée par une grenade tirée par les gendarmes. Et plusieurs années plus tard, la tendance est toujours au durcissement, notamment incarné en France par notre ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui avait fait un lapsus particulièrement révélateur en septembre 2025 au JT de TF1 sur la répression des free parties. Je cite « On regroupe nos forces, on les encercle et après on les tape ». Fin de citation. Et de votre expérience, dans quelle mesure la répression policière et étatique s'est durcie et s'est intensifiée ces dernières années sur les free parties ?
Ce qui se sait un peu dans le milieu, c'est que vraiment le tournant, ça a été un peu le Covid.
D'accord.
Genre, et notamment, je pense, c'est les teufs qui ont eu lieu pendant le Covid, notamment celle de Lyon et aussi celle de Redon, qui était aussi pendant une période de Covid, parce que il me semble que les autorités avaient dit que la teuf de Redon, c'était vraiment un risque sanitaire vraiment énorme.
Oui, il y avait encore les confinements, où il y avait encore mesures sanitaires en place.
Les gens avaient quand même voulu danser. Et c'est d'ailleurs l'excuse qu'ils avaient utilisée pour justifier un peu la violence de la répression qu'il y a eu ce week-end-là. Mais je pense que pour parler de Redon, il faut aussi revenir un peu en arrière et sur pourquoi cette teuf a lieu à Redon. C'est une teuf qui avait lieu en hommage pour Steve. Steve qui est un peu un de nos martyrs, parce qu'il est mort durant la fête de la musique, en plus, à Nantes en 2021. Il est mort pendant...
2019
C'est pas ça ? Si, 2019. Ouais, c'est Redon 2021.
Ouais, c'est ça.
Bien vu. et du coup, il est mort des suites des décisions du commissaire à l'époque, qui avait décidé de charger alors que la teuf avait lieu sur les quais à Nantes et que du coup, il n'y avait pas de sécurité pour les gens. Et il y a 14 personnes qui sont tombées à l'eau, mais seulement 13 qui sont remontées. Et Steve, du coup, est mort noyé. Et du coup, en fait, Redon, c'était un peu une teuf en hommage. Et je pense que c'est aussi un peu ça qui a embêté les autorités. Mm-hmm. C'est le fait qu'on puisse faire la fête en rappelant le fait que la fête, c'est politique et qu'il n'y a pas besoin de mourir pour la fête. Sauf que c'était un peu trop, un doigt d'honneur devant leur visage, comme on pourrait dire. Mm-hmm. Mais voilà, et du coup, suite à toutes ces teufs-là, Lyon, Redon, la mort de Steve, la fête de la musique, la répression, elle a fait que s'accentuer. Actuellement, on peut en parler même tous les week-ends. Et la loi, ce qu'elle dit, c'est que un événement musical n'a pas besoin d'être déclaré s'il ne rassemble pas plus de 500 personnes. Sauf qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est que la majorité des saisies et la majorité de la répression policière, s'accentue sur justement ces petits événements. Et c'est là où on voit que même l'État ne joue pas à son propre jeu et qu'en fait, il essaye de nous tuer dans le berceau. Parce que justement, les petites teufs, c'est les petits collectifs qui ensuite, par la suite, à force de se développer, deviennent des gros collectifs. Et en fait, ils tapent autant les petits collectifs, les jeunes qui essaient de se débrouiller à faire quelque chose, à créer quelque chose d'artistique et de complet, tout comme ils répriment violemment ces grands rassemblements de plus de 500 personnes.
D'ailleurs, au niveau de la loi, du coup, pour parler un peu du cœur du du sujet avant qu'on manque de temps. Mais ouais. Donc il y a le cadre législatif qui est en train d'évoluer actuellement. Il y a deux projets de loi qui sont actuellement en discussion. Il y a le projet de loi qu'on appelle 1133 qui était proposé par le groupe Horizon il y a à peu près un peu plus d'un an, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée le 9 avril dernier, qui doit désormais passer devant le Sénat. Il y a le projet de loi Riposte qui est un projet de loi un peu fourre-tout contre les troubles à l'ordre public, mais qui concerne notamment les free parties et qui était adopté en première lecture aujourd'hui même au Sénat, donc on est en plein dans l'actualité. Et tous deux prévoient notamment, entre autres, nombreuses mesures des peines de prison pour les organisateurs de free et même pour les participants dans le cadre de la loi Riposte. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les mesures présentées dans ces deux projets de loi et quelles sont les nombreuses choses que vous dénonceriez sûrement dans ces deux projets? Peut-être Rox.
En vrai, cette loi, elle est aussi là pour faire peur. Enfin, ça me paraît complètement lunaire que demain on mette en prison alors que déjà il manque de place. Enfin, des gens juste parce qu'ils ont voulu danser dans des champs. Enfin, ça paraît fou. Et en fait, ils mettent ça en place, un truc complètement lunaire, pour que les gens, en fait, ils arrêtent d'aller en teuf parce qu'ils aient peur. Et c'est possible que justement, ils se servent de quelques personnes, enfin, pour qui vont servir d'exemple en mode ah bah regardez, la répression est réelle, elle s'abat sur telle et telle personne, parce qu'ils savent que après, les gens auront peur. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans le milieu squat avec le projet de la loi Kasbarian. Ils ont frappé sur quelques personnes et maintenant, des squats, il y en a quasiment plus. Et c'est ce qu'ils vont faire aussi sûrement avec ces projets de loi.
Mais ça c'est un truc qui marche, c'est-à-dire de vous faire, vu que vous êtes dans une contestation de toute forme de règles, est-ce que vraiment le fait qu'on vous dise voilà vous allez avoir telle menace, est-ce que c'est un truc qui fonctionne, qui dissuade les gens ou pas de faire des free ou d'y aller?
Personnellement je pense que non.
Oui, moi non plus je pense pas.
Ce qu'on voit dans le milieu actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas peur en fait, et on va continuer de lutter quoi qu'il arrive, et il y aura certainement des personnes qui vont être fauchées dans le processus, mais l'important c'est qu'on reste tous soudés et qu'on lutte ensemble, et surtout qu'on cède pas à la peur, parce que si on cède à la peur, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir gagné. Et c'est pour ça qu'il y a plein de collectifs, que ça soit des sound systems ou des collectifs du milieu, qui informent bien les gens sur le fait que c'est maintenant qu'il faut lutter, et si on lâche maintenant, c'est un peu aussi un marchepied vers la suite du fascisme qui nous guette actuellement. Mmh.
Et puis on continuera à aider ces gens justement qui subiront la répression. On sera là pour les accompagner à leur procès, pour les aider à payer leurs amendes, à aller au parloir s'il faut aller au parloir, parce que juste on a un mouvement soudé jusqu'au bout.
Est-ce que tu veux compléter peut-être sur les mesures des deux projets de loi? Il y a aussi des amendes, on parlait d'amendes, mais des amendes qui vont être durcies. Je crois qu'il y a un nouveau délit qui va être créé dans le cadre de la loi Riposte. Est-ce que tu veux
parler un petit vrai. Peu de ça du coup je parle de la loi Riposte.
Vas-y.
La loi Riposte, tu l'as bien dit, c'est un projet un peu fourre-tout qui veut un peu s'en prendre au rodéo, proto,
protoxyde d'azote,
ça, et à plein d'autres choses. Mais dans le cadre des free parties, c'est une loi qui est portée par Nunez, et en fait, il veut durcir la répression face aux troubles, enfin ce qu'il appelle les troubles à l'ordre public. Ouais. Personnellement, je trouve pas qu'on ait un trouble à l'ordre public. Ce qui vise, et c'est ce qui a été voté, c'est que de punir les organisatrices de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, les participantes de, je crois que ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison, c'est une amende de 5e classe, du coup c'est 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive pour des gens qui, techniquement, viennent juste danser pendant un week-end. Qui font rien de mal, ils font rien de mal, ils font juste que danser, écouter de la musique. Ça paraît un peu lunaire, comme tu disais. Et en fait, il y a aussi une sorte de flou dans cette proposition de loi, parce que en fait, ils savent tellement pas trop de quoi ils parlent. Ils ont tellement pas de data sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces free parties, qu'ils savent pas trop sur qui taper.
Ouais.
Enfin, il y a quand même.
Mais c'est très peu ancré dans le réel, en fait, ce qu'ils pensent dénoncer de leur côté.
C'est ça, en fait. C'est en fait, vu qu'ils ont opté pour la rupture du dialogue il y a déjà de ça des années, en fait, ils sont plus en dialogue avec nous. Parce qu'ils refusent systématiquement, même quand on leur fait des lettres ouvertes, même quand on leur prouve que c'est eux-mêmes qui donnent les directives au préfet de ne pas nous parler quand on essaie d'aller les voir. En fait, ils se sont eux-mêmes renfermés dans leur idée. Et en fait, ils sont dans une réalité qui est totalement, enfin, c'est même pas la réalité, mais c'est totalement déconnecté du monde réel.
On va arriver doucement vers la fin de l'interview, désolé. Vas-y, rapidement.
C'était juste dans le flou, je voulais dire que, en fait, par chance, avec les lois sur la santé, ils vont pas taper sur les assos de RDR. Du coup, ça, c'est quand même une chance. Mais par contre, il y a un flou sur tout ce qui est stand de repos, centre de restauration. C'est-à-dire même des gens qui proposent aux gens de se reposer, de leur donner à manger et tout, même eux seront sous le coup de ces... Enfin, pourraient être accusés d'organisation, carrément.
Un mot pour conclure, juste pour apporter son soutien au mouvement préparti, il y a des manifestives. Est-ce que vous pourriez parler en 15 secondes des manifestives organisées bientôt partout en France?
Il y a des manifestives du coup, qui vont être organisées en France. Il y a le calendrier de quand elles ont lieu, parce qu'elles n'ont pas lieu toutes le même jour.
Ouais.
Du coup, il est trouvable sur l'Instagram de Techno-Rep. Pour Paris, ça sera le 13 juin. Faut venir, parce que ce sera chouette et... que plus on est et plus la fête sera grande et du coup let's go.
Et pour se battre donc contre ces deux projets de loi, 33 et Riposte notamment, et donc je crois que c'est le 30 mai, 6 juin et 13 juin, si je dis pas de bêtises. Et donc le 6 juin pour Paris.
Le 13 juin pour Paris,
c'est noté. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je te passe la main à Maurice.
Merci beaucoup, merci Rookie, merci Rox, membre des collectifs, on le rappelle, Tech de Rêve et Red Flag Riposte. Merci PA pour tous ces éclairages. À présent, laissons nos oreilles se délecter du miel que nous propose Kazan 303 avec le titre Acid Techno Mentalitate.
Techno is a shit, man. This one was from Ali Frustrasi, to beat Radlato in a. To miss Lerkin and the
techno is cool. Als je gezellig zijn en veel mensen zijn die gekend, bij gewoon gezellig samenkomen. Je hebt veel mensen die elk weekend de techno gaan voor muziek maken.
Vous êtes branchés sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez la matinale de 19h. C'était Acid Techno Mentalitate de Kazan 303.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Maintenant, tendons l'oreille pour écouter notre cher Benoît. Si vous vous en souvenez, Benoît avait obtenu sa carte à la bibliothèque la semaine dernière. Truc de ouf. Et aujourd'hui, il vient nous raconter ce qu'il a vécu dans un train. Mais bonjour Benoît.
Salut.
On meurt d'envie de savoir, mais que s'est-il passé dans ce diable de train ?
Eh oui. Salut, c'est Benoît. La France en 2026, quand même, c'est quelque chose, hein, avec tous ces... Enfin, les gens, ils en ont marre. Parce que moi, l'autre jour, j'ai pris le train, parce que l'avion, ça pollue. Et souvent, moi, je prends un billet en dernière minute. Mais là, j'ai oublié de le prendre, parce que j'étais en train de manger un sandwich. Miam, 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 miam. Et j'ai dit au contrôleur, bonjour, monsieur, vous avez un très joli costume. Parce que je trouve qu'ils sont beaux, moi, les costumes à SNCF. Merci, monsieur. Bon appétit. Il m'a dit, merci, c'est un sandwich aux petits légumes de saison. Sans viande ? Ah non ? C'est pas un peu lourd un sandwich avec cette chaleur ? Ah ben il va falloir s'y habituer avec le réchauffement climatique, je lui ai dit. Je fais pas de politique, il m'a dit. Mais c'est pas de la politique ? Bah si. Bah non. Bah si, bonne journée. Non mais le mec, il m'a un peu énervé. Déjà, j'avais pas pu acheter mon billet à cause de mon sandwich. Oh pétard, mon billet. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trop chaud ? Oui. Vous êtes vegan ? Mais quel rapport ? Vous avez très bien compris, fichez-nous à paix. Ah non mais cette fois-là, j'étais franchement énervé. Alors j'ai mangé mon sandwich pour me calmer. Puis quand il a repassé, j'ai dit j'aurais besoin d'un billet, s'il vous plaît. Et en plus, vous n'avez pas de billet. Bah, c'est pour ça que je vous ai parlé. J'ai oublié de prendre mon billet à cause de mon sandwich. Sandwich de vegan. Végétarien. C'est pareil. C'est 50 euros d'amende. Fallait se présenter au départ. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ouais, ouais, 50 euros. Vous voyez bien que vous nous faites perdre du temps. Un autre monsieur. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. Mais enfin, c'est un train. On va tous arriver en même temps. Vous payez par carte, il a dit le contrôleur. Bon, là, moi j'étais vraiment en colère, parce que, et puis j'étais triste aussi, parce que personne ne m'écoutait. Et là, il y a une dame qui est intervenue. Elle était noire, et elle a dit avec son accent, « Voudriez-vous laisser ce jeune homme tranquille une fois ?» Parce qu'elle était belge. « Ah, merci madame. » « Bah oui, on l'a tous entendu, vous sollicitez dès le départ, vous voyez bien qu'il est honnête. »« Ouais, ouais, je me méfie de tous ces extrémistes. » Comment ça, extrémiste une fois ? C'est un écolo. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Mais vous êtes qui ? Ah bah, je suis François Ruffin. Cette dame noire n'a pas payé son voyage ? Je vais payer pour elle. Ah non, non, c'est moi qui n'ai pas payé mon voyage. Mais vous êtes blanc ? Ben oui. Ah, ça m'arrange pas ça. Bon, allez, bonne journée. Bon, 50 euros, il a dit le contrôleur. Laissez-le tranquille une fois, 50 euros le vegan. Et si la prochaine fois il prend un sandwich avec de la viande ? Quelle viande ? Bah, une saucisse. De porc ? Une saucisse de porc. J'ai entendu qu'on parlait de porc, des musulmans n'ont pas payé le billet. Non, non, merci François Ruffin. Très bien, très bien, j'insiste pas. Alors, si la prochaine fois il prend un sandwich avec de la viande, ça peut le faire. Bon, d'accord. Et avec des saucisses cuites à la graisse de porc ? Et avec des saucisses cuites à la graisse de porc. Vous le promettez, hein ? Oui, oui. Ah, c'est bon, je vous laisse partir. Et c'est comme ça que j'ai échappé à une amende, grâce à l'intervention de cette dame. Elle était drôlement gentille, elle au moins. Ah non, mais la France en 2026, je vous jure.
Merci Benoît pour ce partage émouvant. Et remettons-nous de ces émotions en nous plongeant dans le Zoom proposé par Anna.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le festival Magic Barbès démarre demain, mercredi 27 mai, et se tiendra jusqu'au 31 mai. C'est Moussa Mokran, artiste associé à la direction artistique, qui vient répondre aux questions préparées par Anna. Bonsoir Mousse.
Bonsoir.
Et bonsoir Anoa, c'est à toi.
Bonsoir. Ça y est, il fait beau, il fait chaud, même très chaud. Les terrasses débordent, les enceintes résonnent à nouveau dans les rues et les programmations fleurissent un peu partout. Pas de doute, la saison des bières tièdes à 8 euros et des coups de soleil devient devant une scène et officiellement ouverte. Mais derrière les DJ sets, les food trucks, les stories Instagram, organiser un festival aujourd'hui n'a rien de simple. Entre restrictions budgétaires, pressions sécuritaires, difficultés pour les lieux culturels et politiques, parfois, voire très souvent, peu tendres avec les événements populaires, faire vivre un festival devient presque un sport de combat. Et pourtant, à Barbès, le festival Magic Barbès continue de transformer le quartier en terrain de fêtes, de rencontres, de créations collectives. Concerts, débats, cuisine, sport, performances. Ici, on mélange les genres autant que les publics. Alors pour comprendre comment on fait vivre un festival comme celui-ci en 2026 et pourquoi ça reste essentiel, on va discuter avec Mousse qui est assis juste en face de moi. Pour commencer, une question toute simple, c'est quoi le festival Magic Barbès ?
Alors Magic Barbès, c'est bon, d'abord comme son nom l'indique, un festival qui se passe à Barbès, un territoire bien particulier, un territoire qui est assez représentatif en amont de ce que peut être notre société dès demain. C'est une sorte de laboratoire, j'aime bien dire. Donc voilà, c'est un festival qui se passe sur ce territoire. C'est avant tout un festival collaboratif. C'est-à-dire que c'est un festival qui est un peu coordonné par FGO Barbara, cette salle de spectacle qui est rue Fleury, en plein milieu du quartier de la Goutte d'Or. Mais c'est aussi un festival qui se partage avec une trentaine de partenaires sur le quartier. Et donc c'est toutes ces réunions d'organisation, de préparation qui nous ont permis de mettre en place ce programme.
Okay. Et justement, entre ateliers, concerts, émissions, foot, jam, théâtre et j'en passe, on voit rarement un festival proposer une telle diversité dans son programme. Comment est-ce qu'on mélange tous ces arts et comment surtout c'est possible et pourquoi c'est important de proposer une telle mixité?
Ben d'abord, c'est parce qu'on se rencontre en fait. On se rencontre avec les acteurs et les actrices, toutes celles et ceux qui font et qui expérimentent, qui créent des modes d'action. Parce qu'en fait, c'est un peu des convictions que l'on peut avoir, c'est-à-dire que créer les modes d'action, réfléchir à comment on peut participer. Pas seulement au vivre ensemble, au fait de s'inventer ensemble, ça permet de rencontrer des gens qui sont passionnés de cuisine, de sport, de mode, de musique, de cinéma, de toutes ces choses qui font qu'on peut rêver et s'imaginer.
Et est-ce qu'il y a un moment ou un événement dans cette édition 2016 qui symbolise particulièrement l'esprit du festival, selon vous, ou peut-être même un créneau que vous avez vraiment hâte de partager ?
En fait, en réalité, tous les créneaux sont à l'image de cet événement, parce qu'en effet, le défi finalement de cet événement, c'est la collaboration, le côté collaboratif où chacun, dans le cadre de son action, fait une proposition programmatique. Et bon, on discute pour savoir quel sera le mot d'ordre ou la thématique, on le dit comme on veut. Cette année, la thématique, le mot d'ordre, c'est la mise en lumière. On a l'impression d'être confronté à une stratégie d'invisibilisation des choses positives dans ce pays et dans ce type de quartier en particulier. Je dirais, certains médias s'en chargent. Donc, nous, on se charge de l'autre volet. C'est-à-dire celui qui dit, mais regardez, les gens font des choses et proposent. Donc, c'est avant tout en se rencontrant qu'on arrive à créer. Alors, je dirais, moi, par exemple, je dirais que, par exemple, le débat d'inauguration demain qui aura lieu à FGO Barbara dans le hall dont la thématique est les héritières prennent la parole, c'est-à-dire pourquoi les femmes aujourd'hui ce sont celles qui prennent le récit en main pour raconter ce qui se passe dans ce type de quartier. C'est la réalité, de plus en plus de films sont portés par des femmes, et c'est quelque chose qui est magnifique. À un endroit où on nous laissait entendre que peut-être les femmes auraient moins de possibilités qu'à d'autres endroits, ben finalement on se rend compte qu'elles sont les porteuses de cette parole-là. Par exemple, il va y avoir un repas de quartier vendredi, par exemple, il va y avoir vendredi soir une carte blanche à Dornica, qui est une artiste iranienne, à Bibi Slay jeudi soir. Il va y avoir un tournoi de foot féminin dimanche. Enfin voilà, bon, et vraiment, je conseille à celles et ceux qui nous écoutent d'aller voir le programme parce qu'il est riche et qu'il y a vraiment moyen d'aller trouver toutes sortes d'occasions de se rencontrer et d'occuper l'espace public aussi.
C'est ça, en fait, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on aime, on s'y retrouve en fait dans la programmation.
J'espère.
Et quand on prépare un festival d'une telle ampleur, en fait, c'est quoi les difficultés auxquelles s'attendre, surtout dans un contexte politique où les moments de culture sont souvent bien ciblés financièrement?
Finalement, les plus grandes difficultés, c'est arriver à trouver les moments pour être ensemble et se parler. C'est peut-être ça, finalement, le plus difficile. C'est quoi, à quel moment on peut se retrouver dans un agenda, ne serait-ce que ça? Il y a 30 partenaires. Ouais. Donc, à un moment, c'est des réunions à 30, 35... structure, des fois ça vient à 2, à 3, donc on peut être 30, 40, donc faut arriver quand même à se retrouver. On fait en gros à peu près 3-4 réunions de préparation, on est aussi nombreux, bon, on boit des cafés, on boit du thé, on mange des petits gâteaux aussi, hein, je veux dire, mais voilà, c'est peut-être ce moment-là qui sont ces moments essentiels qui créent la dynamique, et c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver. Après, FGO Barbara est un endroit qui est porté par des professionnels de la musique, c'est un lieu extraordinaire, quand le politique a des bonnes idées, il faut le saluer. Créer un lieu de ce type au cœur du quartier de la Goutte d'Or, c'est quand même une idée magnifique, et donc les personnes qui travaillent dans ce lieu sont des professionnels et des professionnels qui vont se mettre au service justement pour faire que ce soit jouable.
Oui, c'est ça. On souligne que quasi, à part certains concerts et certains événements, c'est quasiment gratuit.
Oui.
En fait, c'est très accessible comme festival.
Oui, oui. L'idée, c'est... Alors, il y a une partie où, bien sûr, il y a une proposition payante dans le cadre du concert, parce que c'est vrai qu'il y a de la programmation d'artistes sur scène et tout, mais la plupart du temps, il y a un défi qui nous paraît assez accessible et très important, c'est d'occuper l'espace public et surtout de participer à cet espace public pour lui donner une couleur beaucoup plus rassurante qu'il ne peut avoir par moment.
C'est ça. Et cet espace, justement, on peut parler du lieu, la Goutte d'Or à Barbès, qu'est-ce qu'il représente et pourquoi faire un festival ici ?
Parce que, comme je le disais tout à l'heure au début de notre échange, pour moi, ce type de territoire, bon, voilà, quand on connaît l'histoire de la Goutte d'Or, de Barbès, c'est 2 siècles d'histoire à l'image de l'histoire de France. C'est un laboratoire où les gens se rencontrent, se donnent rendez-vous. C'est des points de rendez-vous pour les gens pour se retrouver et commencer de nouvelles vies. C'est des endroits, Barbès en particulier, la Goutte d'Or, et plein de quartiers en France d'ailleurs, c'est des endroits où les gens sont là pour aussi tenter un avenir meilleur. Et ça, ça se tente, c'est très intéressant comme projet un avenir meilleur, voilà. Donc, je dirais que c'est aussi pour ça que dans ce type de quartier, c'est, on a aussi cette richesse-là, hein, faut pas croire. C'est un quartier qui produit énormément de dynamiques proposantes, différentes, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de propositions. Je pense qu'il y a d'autres quartiers de Paris où ça serait juste pas possible, où il y aurait juste des restaurants avec une bouffe très chère.
C'est ça, j'ai l'impression qu'on change la donne un petit peu, surtout qu'avec tous les clichés médiatiques qui sont proposés aujourd'hui dans les médias, j'ai l'impression que ce festival, il joue vraiment un rôle dans la façon de raconter les quartiers à Paris, etc. Et ça, est-ce que vous pouvez nous en parler
un petit peu ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est une question de récit. Et cette question du récit inclusif, c'est quelque chose que moi, dans mon parcours d'artiste, c'est quelque chose que j'ai toujours porté, y compris la parole progressiste et le fait de se dire que, oui, le récit doit être inclusif à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il doit porter l'histoire des gens pour qu'on soit en phase et qu'on se comprenne. Et donc, c'est là où c'est intéressant ce type de quartier, parce que ça produit des récits incroyables. Des récits incroyables avec des parcours complètement fous, et puis on se retrouve avec des ambiances voilà qui sont assez finalement assez humaines, tout simplement, quoi, des endroits où on peut échanger directement et faire de la rencontre. Et Barbès, bon, moi je suis d'une génération où pendant des années on savait très bien que Barbès c'était la capitale des musiques du monde, par exemple, dans les années 90. On savait que s'il n'y avait pas eu Barbès, il n'y aurait pas eu la connaissance qu'on a aujourd'hui des musiques africaines au sens large, ou indienne, ou parce que c'est des endroits qui accueillaient vraiment ces artistes dans des situations de loyer accessible, on va dire ça comme ça.
Et concrètement, c'est une question un peu large, je sais, mais on peut s'attendre à quoi ? Qu'est-ce qui donne envie dans ces 5 jours de festival ?
Moi, je pense que ce qui donne envie, c'est tout ce qu'on vient de dire. Enfin, il me semble que c'est pas moi. Si j'écoutais ça, je me dirais, tiens, il faut que j'aille voir.
Et tout. Ah, c'est clair.
Et donc voilà. Donc non, mais ce qui donne, c'est en plus, bon, on a la chance d'avoir une météo vraiment sympa. Donc, se balader dans le quartier dans des moments comme ça, aller assister au repas de quartier, rencontrer les gens, et se rendre compte que dans ce type de quartier, contrairement à ce que certains médias peuvent dire ou porter essentiellement, il y a juste des gens qui y vivent et qui y travaillent. Quoi.
C'est génial. Et est-ce qu'il y a encore des choses, parce que c'est pas la première édition, est-ce qu'il y a encore des choses qui arrivent à vous surprendre dans l'énergie, dans les rencontres que génère du coup ce festival ?
On est surpris chaque année, parce qu'en réalité, c'est ce type de quartier, c'est des quartiers qui sont en mouvement permanent, comme l'identité. Voilà, l'identité, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a certaines personnalités politiques qui voudraient nous faire croire que l'identité se serait figée à la fin du 19e siècle. Non, en réalité, elle a toujours bougé. Et ça, c'est la notion même de ce type de quartier. Donc, le mouvement est là. On peut se retrouver cette année, on a des partenaires qui n'étaient pas l'année dernière, ou qui n'ont pas entendu parler du projet, ou bien qui n'étaient pas encore structurés. Ben, l'année prochaine, il y en aura d'autres, et on est prêt à les écouter, parce que ce qu'ils proposent nous intéresse.
Super. Et dernière question très importante, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations et même les billetteries sur le festival de Magic Barbès ?
Alors c'est sur le site de FGO Barbara, programme Magic Barbès, bon, c'est très facile à trouver.
C'est clair. Bah, merci beaucoup.
Merci
en tout
à
cas.
Vous.
Merci beaucoup Moussa Mokrane, merci d'avoir amené un peu de Toulouse à Paris. J'invite vraiment tous nos auditeurs à aller faire la fête et à aller au festival Magic Barbès. Merci Anna pour tes questions. Et en guise de petite pause, écoutons un artiste qui se produira au festival Magic Barbès, vous en avez parlé. Il s'agit de Habibi Sly avec le titre Dar Al Gajola en featuring avec Aziz et Saad Tiouli.
Appelle la foi, yeah.
écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 et nous écoutions le titre d'Art Algajola de Habibi Sly en featuring avec Aziz et Saad Tiouli.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et saluons Iske qui vient nous parler de la fête de la cité.
Salut! Une année de plus, jeunes, adultes et enfants ont profité de l'une des célébrations les plus attendues de la cité universitaire. Il était 20h et malgré une chaleur encore écrasante, la Maison du Mexique offrait l'un des meilleures ambiances de la soirée. La musique latino-américaine résonnait dans tous les campus, rassemblant les hispanophones et aussi les visiteurs de toutes les nationalités. On a tellement dansé qu'au moment donné, personne ne savait si la sueur venait de la chaleur ou de l'énergie de la fête. Lorsque la musique s'est arrêtée, beaucoup en voulaient encore, mais la soirée réservait bien d'autres surprises. Soudain, des tambours et des rimes se sont fait entendre au loin, invitant les passants à s'approcher et à se joindre à la fête. C'était la Maison du Brésil. En plus de proposer des spécialités culinaires que tout le monde rêvait de goûter, elle a recréé l'esprit du célèbre carnaval de Rio de Janeiro. Des artistes sur échasse, des danseurs de samba et des musiciens ont défilé dans les rues de la cité. Pendant quelques instants, on avait l'impression de vraiment se trouver dans une avenue brésilienne débordant des couleurs hérites. Si vous cherchez quelque chose à voir, il fallait s'armer de patience et considérer cela comme une excellente occasion de connaître les personnes, car les files d'attente étaient interminables. L'avantage, c'est que ceux qui étaient venus chercher une bière sont venus aussi avec nouveaux amis. Pour ceux qui préféraient manger quelque chose, la Maison du Liban proposait un des alternatifs les plus populaires de la soirée, c'était une glace à la vanille recouverte de pistaches, la véritable sensation. Une fois les présentations faites, les spécialités dégustées et les boissons partagées, la soirée ne faisait que commencer. La Maison du Cambodge s'est préparée à offrir 3 heures du remarquable mélange de techno et musique électronique, qui a fait vibrer tout le public et c'est là pour lequel que tout le monde devient fou et saute à l'unisson. À cet état de la soirée, même ceux qui n'avaient pas prévu de faire du sport avaient probablement déjà accompli leur séance hebdomadaire. Un aspect particulier, c'était que il avait l'impression de voyager sans quitter Paris. Il suffisait de traverser une rue pour voir le sentiment de changer de continent. Chaque résidence reflète l'architecture et l'identité culturelle du pays. Par exemple, la Maison du Japon s'est distinguée par son état et ses érables. Lorsque la nuit est tombée, les activités officielles des DJ ont terminé. Mais cela ne signifiait que la fête a terminé. Peu à peu, les participants se sont regroupés dans les grands parcs situés derrière de la Maison internationale. On y trouvait différents groupes, chacun avec sa propre musique. La diversité était incroyable, puisque quelques mètres ont passé de la musique grecque à marocain. Et tu marchais un peu plus loin et on entendait de la musique libanaise et des pop internationales. En définitive, c'était une fête et une expérience très divertissante. Et pour ceux qui souhaitent encore de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir autre culture, écouter de la bonne musique, manger, boire et passer un moment convivial, cet événement est l'occasion parfaite. Il se déroule chaque année pendant 3 jours à la fin du mois de mai sur le campus situé au cœur du 14e arrondissement de Paris.
Et bah merci beaucoup Iske, ça donne envie et j'irai l'année prochaine. C'est déjà la fin de la matinale de 19h. Merci à tous nos intervenants, en particulier à PA qui était en interview, Anna au Zoom, Benoît et son train, Iske à la chronique libre. Merci à Joé pour la réalisation et merci à Aude pour la coordination. C'était Amaury à la présentation et la matinale revient demain soir à 19h et en direct ici même sur le 93.9. Tout de suite, on vous laisse avec Le Lobby et n'oubliez pas, le dopage, c'est dommage. Merci et à demain.
Campus.